Figaro Radio.
Le Buzz TV.
Nicolas Voller et Cécile Brelot.
Figaro Radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau Buzz TV de cette nouvelle semaine avec, vous allez voir dans ce studio aujourd'hui, une comédienne qui va vous toucher, qui va vous faire rire, qui va vous faire réfléchir, qui va vous émouvoir. Bref, vous allez passer par toute la palette des sentiments humains avec elle, révélée aussi bien à la télévision, vous avez pu la voir dans des séries comme Plus belle la vie, Joséphine, Magellan, Coup de foudre à Bora Bora, et pareil au cinéma, Hippocrate, L'Ascension, Comme des rois, et même dans ce film de Danny Boone, Au nom de volcan imprononçable. Si elle nous rend visite aujourd'hui, c'est pour parler d'une mini-série en 6 épisodes qui devrait plaire à un large public, tant son message, on va le voir, est universel. Bonjour Tiffaine Davio, merci d'être avec nous.
Bonjour.
On est ravis de vous avoir. TF1 diffuse les 2 premiers épisodes des Randonneuses. Vous y jouez l'un des personnages principaux, Morgane. Vous allez tenter l'ascension du dôme de la Lauze avec 5 autres femmes. Un défi qui cache également un secret, on va le découvrir dans quelques instants. Mais juste avant qu'on entre dans le vif du sujet, Tiffaine, moi j'avais une question qui me brûlait les lèvres, c'est comment s'est passé le tournage en montagne ? Est-ce que vous avez vraiment gravi 3600 mètres ? Est-ce que c'était aussi épuisant qu'on le dit ?
Heureusement, non. Pour nous 6, hein, je parle vraiment...
Vous avez tourné dans les Alpes quand même. Hein.
On a tourné dans les Alpes. On est monté jusqu'à 3006. C'est très haut, ouais. Il fait très froid, même en mai. Et c'est très difficile de respirer. Tout ça, c'est quand même physiquement assez intense. Mais c'est vrai que concrètement, nous, on faisait peut-être aller maximum, parfois peut-être 1 kilomètre. Et on faisait un petit kilomètre, mais ça ne dépassait pas ça. Mais globalement, on était plus sur du 10 mètres. Hein.
D'accord.
Après, on va faire du foin.
Mais au bout d'un moment, bah, c'est épuisant. Au bout d'un moment. Vous aviez une petite expérience de la montagne ou pas spécialement ?
Alors moi, pas du tout. Je suis vraiment une fille de la mer. J'étais là
de genre
3 mois d'été, quoi, en montagne ? Mais en fait, j'étais hyper contente. D'abord, il y avait la canicule partout en France, sauf chez nous. Donc ça, on avait plutôt un été frais, ce qui n'était vraiment pas désagréable. Mais non, je ne suis pas tellement une fille de la montagne, et surtout l'été. Et j'ai vraiment apprécié, parce que là, on était vraiment en Haute-Maurienne, on était en Savoie, donc on a commencé par la Grave d'abord. Et on a vraiment voyagé dans plein de stations, du coup. Et puis c'est drôle de voir les stations de ski l'été. Ça donne très envie, après, de se dire, tiens, j'en viendrai bien dans cette
zone. Oui, ça n'a rien à voir, hein, l'été, on est d'accord.
Exactement. Mais c'est très, très beau. C'était très agréable.
Bon, en tout cas, ça se voit pas, hein, vous êtes une enfant de la mer dans la fiction. Ça preuve, effectivement, que c'est très bien joué. On va poursuivre l'entretien dans quelques instants sur Figaro Live et parler de cette fiction exceptionnel de cette incroyable série. On parlera aussi de vos projets, de télé, de cinéma. Ce sera après les news médias de Cécile Brelot. Ça va, Cécile ?
Bonjour Nicolas, bonjour Tiffaine. Bonjour.
On commence ces news médias avec le geste du week-end, celui de Lazarin. C'était notre représentante française à l'Eurovision. C'est pas passé très inaperçu.
Non, samedi soir, la Québécoise représentante de la France a encore fait jaser. À l'annonce de son score qui l'a placée à la 16e place sur 26 pays, la chanteuse n'a pas caché sa déception. Un geste furtif, mais notamment remarqué, qui s'apparente à un doigt d'honneur. Lazara s'est exprimée à ce sujet en expliquant ce geste. Je cite, « Ce n'était ni une insulte ni du mépris et en aucun cas un doigt d'honneur, c'est un geste chez moi qui exprime la déception », qui veut dire whatever en anglais. Alors donc aucune volonté de choquer ni de provoquer, ce mouvement est issu apparemment de l'arabe et ça s'appelle un toz qui peut se traduire par l'indifférence. Il se distingue du doigt d'honneur par l'ouverture des paumes à la main levée.
D'accord. Bon, quelle que soit la façon, à partir du moment où on lève le majeur, ça s'appelle un doigt d'honneur. Vous avez suivi l'Eurovision, vous regardez ce genre de choses ou...
Pas du tout.
Pas du
non,
tout.
Non,
totalement j'avoue. Réfractaire ou... à ça.
Pas réfractaire,
ça vous
mais.
Ça n'intéresse pas spécialement.
Pas de dingue, non. Non.
Alors, ça a pris beaucoup d'ampleur, effectivement, avec les réseaux sociaux. Hein, vous savez comment c'est aujourd'hui. Vous y êtes très présente, Tiffaine, ou pas du tout. Vous faites le minimum, on va dire le service minimum ou...
je crois que je fais le minimum, ouais.
Ouais.
Non, j'y suis parce que maintenant, c'est un peu. Enfin, obligatoire, non, même pas, en fait. On fait bien ce qu'on veut et bien heureusement.
Faites mais Instagram, Twitter, Facebook ?
J'ai arrêté Facebook. J'ai bien compris que maintenant, c'était vraiment les vieilles personnes sur Facebook.
Ouais, c'est les darons, c'est vrai.
Donc, j'ai toute ma famille qui est fait « Quoi ? Mais non !» Mais ça nous permet d'avoir contact. Ouais, mais bon, parce que je passais trop de temps sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai gardé vraiment qu'Instagram.
Ouais.
Après, je fais pas TikTok et tous ces trucs-là et tout. Là, c'est en dehors de ma portée. Twitter et tout, c'est... Non. Mais Insta, déjà, je trouve que c'est bien.
C'est déjà pas mal.
Ouais.
Effectivement. On continue ces news médias avec le départ d'un pilier de TPMP, Mathieu Delormeau.
Oui, depuis plusieurs semaines, le chroniqueur et animateur de l'émission hebdomadaire TPMP People sur C8 s'est régulièrement absenté de l'antenne. Vendredi, Mathieu Delormeau a annoncé son départ des 2 émissions. Je cite, « Après 7 années d'antenne, j'ai décidé de quitter définitivement TPMP et TPMP People. Un départ dû officiellement à l'emploi du temps professionnel Éreintant, de Mathieu Delormeau.
Il est producteur, effectivement, oui. De beaucoup d'émissions, oui.
Et officieusement, le chroniqueur aurait eu une vive altercation avec Cyril Hanouna quelques jours auparavant, l'annonce de son départ. Pour le remplacer, Bernard Montiel a été choisi à la tête de TPMP People.
On n'en sait plus sur l'altercation avec Cyril Hanouna ou non? On n'a pas d'infos encore. On aimerait bien savoir ce qui s'est passé. Je sais, vous m'avez dit juste en antenne, je ne regarde jamais la télé. Chez moi, j'ai juste un projecteur. Est-ce qu'il y a quand même, de temps en temps, des petites émissions, des petits plaisirs coupables comme ça que vous pouvez avouer aujourd'hui?
Absolument. Allez-y. Avec ma sœur également. Je les vends en même temps que moi parce que je serais pas.
Vous balancez, il faut balancer.
Sous le bus direct, ma famille. On aime beaucoup Marié au premier regard. Hein, c'est quelque chose qu'on trouve. Oui.
Sur M6, tous les lundis soirs. C'est en face de vous ce soir d'ailleurs.
Hein. Exactement. Quel dilemme pour moi ce soir.
Qu'est-ce que ma famille va regarder ce soir.
Exactement. Ouais, c'est vrai que je vais passer un petit coup de fil.
Vous dites pas ce soir.
Pour voir, pour les prendre sur le fait.
Juste du replay. Donc, au premier regard, il y en a d'autres comme ça que vous avez regardé, que vous aimiez.
C'est vraiment quand je vais chez mes parents, il y avait donc L'amour est dans le pré aussi.
Ouais.
Je crois qu'il y a eu La robe de ma vie.
Oui, ça existe bien sûr. Ouais. Vous êtes très M6 alors, hein, sur toutes ces petites émissions comme
exactement.
Ça.
Exactement, il faut croire. Ouais.
Ouais. Très bien. Bon public. On termine ces news médias avec le chiffre du jour. Cécile, c'est le 15.
Oui, 15e jour de grève pour les scénaristes aux États-Unis. Le mouvement social lancé à minuit le 1er mai par les professionnels de l'écriture américain qui revendiquent une hausse de salaire et une stabilité dans leur travail a mis officiellement à l'arrêt plusieurs fictions bien connues. Donc les fans devront attendre par exemple la 5e saison de Stranger Things sur Netflix, la saison 2 de Last of Us sur Prime Video. Pour Marvel sur Disney+, le lancement de la série prévue en 2024 de Daredevil Born Again, prévue en 2024, pourrait être également retardé. Donc, pour rappel, en 2007, il y avait une grève similaire des scénaristes américains qui avait coûté près de 2 milliards d'euros à l'industrie.
Ouais, en une centaine de jours. On dit souvent que les scénaristes sont les parents pauvres en France, notamment dans le cinéma, dans la fiction. Est-ce que vous pensez qu'ils devraient être rétribués à leur juste valeur? Après tout, les scénaristes, c'est la base vient d'eux. Hein. Et effectivement, aux États-Unis, ils sont plutôt très bien traités, même si là, ils ont des revendications. Mais vous trouvez qu'en France, on n'en fait pas assez pour les scénaristes, c'est souvent...
Ouais, je pense que vous avez raison, je pense que c'est vraiment la base, en fait. C'est une bonne histoire, donc ça demande du temps. Le temps demande de l'argent. Si on veut plusieurs auteurs, ça se rémunère. Donc, moi, je pense que c'est hyper, hyper important. Et aux États-Unis, ils ont aussi la chance d'être syndiqués.
Oui, ils sont organisés en guildes, effectivement.
Exactement, vrai que, surtout là, avec les intelligences artificielles, enfin, tout ce qui se passe et tout, c'est assez important. Enfin, c'est même fondamental, en fait.
Ouais, un scénariste qui écrit l'histoire d'un scénar d'un film devrait gagner autant qu'un réalisateur qui le réalise, c'est ça, j'imagine.
Alors, moi, je ne me rends pas compte, en tant qu'actrice, des rémunérations. Je crois que quand on est créateur, enfin, ça dépend sur quelle plateforme ou chaîne. Mais je crois que parfois, on peut être plutôt très bien rémunéré. Mais oui, en tout cas, je pense que c'est un travail très, très difficile, beaucoup quand même dans la frustration et dans la... il y a vraiment quelque chose à perte. On travaille, on ne sait jamais si des choses vont être financées ou pas. Ça s'étire sur des années.
Surtout au cinéma, qui est encore plus long que
exactement.
La télé et le reste.
Donc pour 5 projets écrits, il y en a peut-être un qui va partir et tout. Donc ça, je pense que oui, il faut absolument le rémunérer, le prendre en compte.
Ouais. Les Randonneuses, c'est le nom de la mini-série en 6 épisodes qui démarre sur TF1 en prime time. Il y aura 2 épisodes. À vos côtés, Tiffaine, on reçoit un casting extraordinaire, hein. Je vais citer Clémentine Sélarié, Camille Chamou, Alix Poisson, Claire Beaurotrin, Joséphine Demeaux, il y a aussi des garçons, hein. Il y a Lucien Jean-Baptiste, Jérémy Creudeville, Baptiste Le Caplin, Elsa Linguini, beaucoup évidemment, mais ces 6 femmes auxquelles l'intrigue se ressente vont gravir le dôme de la Lauze, les 3600 mètres, qui est une aventure physique assez extrême, mais aussi et surtout évidemment une aventure humaine, notamment quand on apprend que ces femmes sont atteintes d'un cancer. Quelle a été votre première réaction quand vous avez découvert cette histoire, ce scénario?
Moi, j'ai eu un peu peur au départ. Je me suis dit, aïe, ok, on s'attaque au cancer, parce que c'est des sujets touchy.
Ouais. Vous aviez peur de quoi? Du pathos, un peu?
J'avais peur qu'on en parle sans en parler, qu'il y ait un truc un peu, on met un mouchoir dessus, un peu d'une pudeur mal placée ou quelque chose comme ça. Et puis, c'est un sujet qui me touche en tant que femme, et puis parce que j'ai connu des gens qui ont eu ce cancer, je pense que voilà,
dans votre entourage.
On a tous quelqu'un malheureusement de près, de loin. Oui. Donc je trouvais ça hyper important. Je crois que j'avais conscience, en tout cas, de l'importance du sujet et de comment le traiter. Et donc j'y suis un peu allée comme ça et tout. Et en fait, j'ai été tout de suite très heureuse et même très épatée du scénario parce que, en fait, c'est très drôle, il y a beaucoup de fraîcheur, c'est très, très solaire. C'est vraiment, on parle de la maladie, mais on en parle d'abord un peu crûment. Enfin, je veux dire, on va avoir des crânes rasés, on va avoir des cicatrices de seins, etc., machin. Ça y va franco et en même temps, à côté, c'est fun, il y a beaucoup d'ironie, on prend de la distance, ce qui est la vie, quoi. On parle pas que de la maladie, on parle de la vie. Avec cette maladie aussi, et de l'espoir, et il y a une vraie sororité aussi, je mets beaucoup, moi, qui est comme ça, six femmes, en premier rôle, en prime time, qui parlent aussi d'un sujet très féminin, le cancer
du sein. Ça vous parle, ça, la sororité, c'était important d'avoir ça, ouais.
Ah ouais, à fond, on a besoin de ça en ce moment, c'est vrai que vous parliez de MeToo tout à l'heure,
oui.
Et on a besoin, ouais, je pense, d'avoir des histoires de femmes portées par des femmes, là, en l'occurrence, des femmes fortes, mais pas que, avec toute leur fragilité aussi. Et de mettre ça en avant avec six générations comme ça différentes, c'est pas si courant, donc c'est chouette, bravo à TF1.
Pourtant, vous avez aussi confié à une de nos consoeurs qu'on traitait beaucoup les femmes dans la fiction, on les glamourisait.
Ouais.
Et pourtant, vous dites que dans Les Randonneuses, vous trouvez qu'il y a quand même une touche de glamour. Où est-ce que vous la trouvez ?
Il y a une touche. J'ai dit qu'il y avait une touche de glamour.
Oui, avec les équipements de randonnée, c'est pas évident à voir au premier regard.
C'est pas ça. Je crois que c'est le plus glamour.
qu'on avait envie de voir ces femmes.
Bah, après, moi, je crois que la montagne aussi, qui est vraiment comme presque un personnage à part entière, en fait,
ouais.
C'est quand même
sublime.
Quand
on le voit, effectivement, c'est...
Il y a un truc où c'est pas pareil d'avoir six femmes atteintes du cancer dans une cave, je sais pas, enfin, à Franprix. C'est pas la même chose, tout d'un coup, dans cet endroit-là, dans la montagne, il y a un truc aussi à rapport à la nature, et de voir ces femmes comme ça, justement, moins accessoirisées, comme on peut le voir habituellement, mais juste véritable, en fait. Je pense que ça, c'est assez... Ça donne envie, parce que on retourne aux racines, et elles sont belles. Enfin, je pense que ces personnages, elles sont belles aussi d'une autre manière qu'on a peut-être l'habitude de mettre en avant.
De leur beauté naturelle et classique. Clémentine Serrier disait qu'elle ne voulait pas être maquillée pendant le tournage. C'était pareil pour vous ?
Je pense qu'on a toutes voulu raconter. Je pense que quand on est malade, on n'est pas hyper pimpante, on va se mentir. Et c'est important de parler de la féminité. Qu'est-ce que la féminité, en fait ? Est-ce que c'est du maquillage et des robes et tout ça, ou est-ce que c'est juste être une femme ? Enfin, ça pose ces questions-là, en fait.
Alors, on voit effectivement, vous en avez parlé, une façon assez novatrice de parler de cette maladie. Il y a de l'humour, il y a des engueulades, il y a la fatigue, il y a le découragement, il y a l'espoir. Tous ces thèmes, en fait, qu'on trouve dans Les Randonneuses, qui façonnent l'histoire, est-ce que ce n'est pas un peu une métaphore, au final, de ce qu'est le combat contre le cancer ? Tout ça. La fatigue, les engueulades, le désespoir,
absolument.
Le découragement, puis l'espoir.
Oui,
puis
c'est vraiment, vraiment hyper symbolique de faire son ascension, et c'est toujours le chemin qui est plus important que la destination.
Effectivement.
Et du coup, c'est ce par quoi elles vont traverser, ce par quoi traversent aussi les proches qui sont autour dans la série, dont on entend quand même pas mal parler, et de la manière dont les proches le prennent différemment, et dont aussi... on impose aux autres notre façon de voir face à la maladie. Et c'est pour ça que le retour aux sources, le retour à la nature, je pense tout d'un coup aussi reprendre confiance dans son corps, parce que c'est quelque chose qui existe, en fait. Déjà, il y a déjà beaucoup d'associations qui s'occupent de femmes comme ça, ou d'hommes, bien sûr, atteints d'un cancer, et qui décident d'aller faire une ascension. Donc quelque chose de très, très physique comme ça, ou un marathon, enfin bref. Et donc, ce qu'ils essayent de regagner par là, c'est la confiance du corps. C'est-à-dire que quand tout d'un coup, notre corps nous a abandonnés, et on n'est plus trop sûr de lui faire confiance. Enfin, c'est très déroutant quand même, quand tout d'un coup ça lâche et qu'on se dit, mais à n'importe quel âge en plus. Et tout d'un coup...
Il faut lui lancer un défi pour voir s'il peut réagir.
Il est toujours il lâche pas l'affaire, il est toujours au garde à vous. Enfin, ça, c'est hyper important de regagner cette confiance-là par là. Quoi.
Clémentine Sélarié disait que la série traitait de l'urgence d'être en vie. Est-ce que vous trouvez que ça résume bien Les Randonneuses ?
Absolument, ouais, complètement, ouais.
L'urgence d'être en vie, l'urgence de profiter de chaque moment, c'est ça ?
C'est qu'en fait, dans la vie, il y a plein de merde. Hein.
Oui.
Voilà. Heureusement, il y a des très bonnes phases, il y a des phases moins rigolotes, mais globalement, c'est sûr que dans ces moments-là, ça donne envie de profiter de tout, de chaque instant. Enfin, c'est une série presque gourmande de la vie. Je pense que ça donne juste envie de se dépasser, peu importe. C'est pas toujours obligé d'être une maladie, mais en fait, peu importe ce qui ce qui entrave. C'est vachement beau aussi l'énergie que ça peut apporter derrière, en fait.
Alors, je voudrais qu'on parle un peu de Morgane, votre personnage qui est un peu mystérieux. C'est pas grand-chose d'elle, c'est la Benjamine du groupe. C'est juste qu'elle a été flic, qu'elle a un compagnon. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques trucs sur elle sans trop spoiler, évidemment? Comment vous la raconteriez, Morgane?
Morgane, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle parle peu, elle est beaucoup dans l'observation. Moi, ça me change, hein, parce que dans ma vie, je parle beaucoup. J'étais là, intéressant de se mettre un peu à l'écart, comme ça. Et en fait, elle a un côté assez sage, en fait. Elle est plutôt posée. C'est vraiment la dernière arrivée dans le groupe de Danny Chimio.
Elle a un peu de mal à se mêler aux autres au début.
Et je crois qu'elle n'a pas tant envie non plus. En plus, ça vient d'elle. Je pense que c'est quelqu'un d'assez fermé. Et je crois qu'elle a un gros sac à dos qu'elle porte, qui est son grand secret. Elle a même plusieurs secrets. Ouais.
Qu'on découvrira dans la série.
Qu'on découvrira au fur et à mesure, évidemment, heureusement. Mais du coup, elle a ce truc en plus qui fait qu'on se dit « Ouais, elle est là, mais sans trop être là. » Mais parce qu'elle a sacrément à décharger pendant l'ascension.
Mais alors, comment vous avez préparé ce rôle, tant sur le plan personnel, quand vous dites que vous êtes bavarde dans la vie et la tête plus observatrice, et aussi sur le plan physique?
Je parlais beaucoup entre les prises.
Ouais. Pour vous vous bien sûr.
Et après,
il faut un peu se libérer.
Exactement, c'est important. Mais c'était même assez chouette pour moi aussi d'avoir... En fait, comme on s'est toutes très très bien entendues et que ça parle vraiment de sororité, ce qui était assez agréable, c'était d'être dans l'écoute les unes pour les autres. Et l'écoute, elle était aussi importante parce qu'on passe toutes les six actrices par des moments de jeu. Voilà, il y a beaucoup de comédie, mais aussi des moments plus intenses. Et ce qui était très chouette, c'était d'avoir comme un petit matelas comme ça, très confortable. On était vraiment en sécurité à la maison avec les cinq autres filles. À chaque fois qu'il y en avait une qui devait donner quelque chose, qui était là, c'est vachement beau. Ça, c'est comme de l'escalade, quoi. Il y a vraiment la nana qui
l'accorder, en fait, qui se soutient.
Exactement. Ouais. Et donc, il y avait vraiment ce truc-là, et c'était beau de porter les copines et de les regarder faire, de les regarder travailler aussi. Donc ça, c'était très chouette, parce que c'est vraiment que des super actrices, donc des super partenaires. Et après, physiquement, je ne me suis pas du tout préparée, et c'est vrai que j'ai eu un Covid un peu intense juste avant le début du tournage, qui a vraiment duré 3 mois.
Ah oui.
Des problèmes respiratoires, des problèmes cardiaques. Et je me disais, oh là là, est-ce que c'est vraiment la super bonne idée d'aller 3 mois au fond de la montagne et tout. Et en fait, je pense qu'au contraire, ça m'a fait du bien. Mais j'avoue, je ne suis pas partie avec une grande forme physique, non.
Ouais. Et pour rebondir sur la question de Cécile, sur votre préparation notamment physique, la préparation émotionnelle, aborder le cancer, vous avez discuté avec des gens, vous avez vous-même côtoyé des gens, vous en avez eu dans votre entourage?
Moi, j'en ai eu pas mal dans mon entourage, donc j'étais très heureuse.
Vous savez déjà de quoi vous parlez.
Ouais. Et j'étais très heureuse de pouvoir en discuter, notamment quand j'ai perdu quelqu'un de très proche qui avait le cancer du sein. Et c'est vrai que c'est chouette de se dire... souvent, on choisit un personnage ou un projet parce que l'histoire nous plaît, parce qu'on va pouvoir jouer des trucs, parce que tout ça, etc. Mais là, ce qui est beau, et c'est vrai que ce qui est beau dans les randonneuses, c'est qu'il y a vraiment ce petit supplément d'âme. Tout d'un coup, on se dit, on fait quelque chose aussi d'un peu important, dont on parle trop peu. C'est un peu un angle mort, ces trucs-là. Et de le faire de cette jolie manière... ça donne un petit truc en plus d'avoir la sensation de faire quelque chose d'un peu important. Je pense que c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi.
Est-ce que ça vous... On voit que tous vos personnages sont des femmes très différentes, qui ne viennent pas forcément du même milieu social. Est-ce qu'on voit du coup que cette maladie réunit tout le monde, peu importe ses origines et ses pensées?
Ouais, malheureusement, on est tous égaux face au cancer. Ouais, je crois que ça, il n'y a pas de...
Ce que dit Clémentine Serret dans la bande-annonce, elle dit on est des copines de chimio. En fait. Voilà. Comment vous connaissez, c'est ça, parce que vous n'avez pas grand-chose en commun.
C'est vraiment la maladie, comment rencontrer des gens autour de quelque chose d'un peu étonnant, et comment aussi ça je pense qu'on... Du moment qu'on ne vit pas ça, on peut pas savoir. Voilà, c'est comme plein de choses dans la vie. Donc c'est sûr que de pouvoir en parler avec des gens qui partagent la même chose, c'est un peu fondamental, quoi.
Alors, vous avez tourné dans beaucoup de séries, je l'ai dit en préambule, y compris des web-séries, y compris pour des plateformes de streaming comme Netflix. Hein, il y a eu Detox l'an dernier.
Ouais,
vous avez fait avec Manon Azem sur Netflix.
Ouais.
Aujourd'hui, en 2023, on est une comédienne comme vous. On regarde autant les projets des plateformes que des chaînes classiques, j'allais dire. C'est aussi, aussi important.
Ah ouais, moi j'aime tout. Mais après, moi j'ai pas de problème avec la crèmerie. Et je me dis, c'est vraiment le projet en fait. C'est vraiment l'histoire.
Quel que soit le support en fait, c'est pas d'accord.
Exactement. Et quel que soit le support, le genre, c'est juste, je me dis, ah cool, ça me plaît, j'ai envie d'y aller quoi.
Oui, vous voyez pas de différence dans la qualité du scénario par exemple?
Non, je pense que en fait, par les plateformes ou France Télé ou M6 ou TF1, etc., je pense que parfois ils font des trucs pas top et je pense que parfois ils font des trucs sublimes. Et c'est comme tout, en fait, c'est normal, la qualité peut pas être tout le temps. Et puis ça n'est que mon avis à moi sur des sujets très subjectifs en plus. Donc non, moi je trouve qu'il y a de tout et que tout le monde est capable de raconter des super histoires. Tout est valable, ça j'en suis sûre.
La différence fondamentale, c'est notamment si vous faites une série sur Netflix qui marche, qui cartonne, c'est international et c'est instantané. Ça, c'est quelque chose qui vous... C'est dans un coin de votre tête, comme par exemple, là, je pensais à La Casa de Papel, qui était sur l'antenne 3 d'Espagne, qui n'avait pas marché, mis sur Netflix, et tous les acteurs de La Casa de Papel sont devenus des stars mondiales du jour au lendemain. J'imagine que c'est dans un coin de la tête.
C'est un peu terrorisant aussi, parce que là, c'est vrai qu'on atteint des niveaux tout d'un coup, vraiment faire des booms incroyables. Donc ça fait un peu peur, mais ce qui est assez génial, moi j'avais fait aussi une série qui s'appelait Marianne sur Netflix, une série d'horreur par Samuel
Godin. Plutôt horreur, hein, c'est ça.
Ouais, exactement. Ouais. Et ce qui est drôle, par exemple, c'est que là, l'Amérique latine est complètement à fond, et donc on a plein de messages. Mais ce qui est super, en fait, c'est d'avoir des messages des quatre coins du monde.
C'est génial.
En traduit et tout. De se dire qu'on peut toucher, de se dire que les histoires sont universelles.
Terroriserait cette surpopularité qu'ont pu avoir par exemple les acteurs de La Casa des Papel?
Je pense que du jour au lendemain, comme ça, d'une manière si radicale, je pense que c'est. Faut avoir un bon entourage, faut être bien dans sa tête. Ouais,
je pense que c'est loin d'être juste anodin, un peu dans votre pays et là c'est tout.
C'est ça. Et puis c'est pas palpable en fait, c'est quand même. Je pense que c'est loin d'être anodin à vivre. Ouais.
Ça peut être palpable pour les propositions qu'on reçoit ensuite. Beaucoup d'acteurs à Casa de Papel, maintenant, jouent dans des séries américaines et un peu partout, des films, du cinéma.
Et en même temps, en plus, je crois qu'on fait un métier tellement particulier qu'en plus, parfois, les gros succès ne sont pas forcément ce qui vont nous apporter le travail qu'on attendait derrière. Et c'est jamais le projet auquel on s'attend qui va faire qu'on va aller. Donc je pense qu'en plus, ça signifie pas tant de choses non plus dans le travail concrètement. Enfin, je crois. Enfin, je sais pas.
On parlait du phénomène MeToo tout à l'heure, Tiffaine, qui a bouleversé le monde effectivement et qui est parti des actrices, notamment aux États-Unis. Selon ce que vous constatez là depuis ces 3-4 dernières années, ça a vraiment changé la vie des comédiennes, soit sur les plateaux, en dehors, ou c'est encore un peu lent l'évolution. Qu'est-ce que vous en avez remarqué?
Moi, je pense que c'est encore un peu lent.
Ouais.
Je pense qu'on en parle beaucoup. Je pense que ça avance et ça, c'est vraiment très, très bien et c'est super. Mais après, je pense qu'on en parle plus que ce qui n'agit.
Que ce qui n'agit en vrai. Ah oui, d'accord.
Ouais, j'aurais tendance à penser ça.
Dans ce que dit Adèle Hanel, quand elle décide de faire grève.
Ouais, oui. Oui, ça, c'est
hyper intéressant. Vous le comprenez ou c'est trop radical pour vous?
Moi, je la trouve extrêmement courageuse. Je me dis, les gens qui ont le courage comme ça de leurs propos, de leurs pensées, d'aller jusqu'au bout comme ça, je trouve ça relativement admirable, d'autant qu'elle n'arrête pas totalement le métier, mais elle choisit, elle décide de faire des projets qui lui correspondent mieux.
Vous ne trouvez pas que c'est aller trop loin? Parfois, beaucoup de gens sont perplexes quand même. Hein. Beaucoup la trouvent courageuse, beaucoup sont très perplexes aussi.
Non, c'est son choix. Moi, je trouve ça merveilleux. Je ne trouve pas ça radical. Enfin, c'est une forme de radicalité, mais si elle a envie de le faire, pourquoi pas? Enfin, moi, ce que je trouve fou, c'est de... ce que je trouve vraiment admirable, c'est d'avoir... De penser les choses, de les dire et de les faire. Enfin, en fait, il n'y a pas tant de gens qui vont au bout comme ça de leur façon de penser. Ça, c'est... Je vois pas comment on peut pas trouver ça incroyable. Après, ça veut pas dire que après on fait ce qu'on veut. Chacun
fait bien
ce qu'on veut.
Bien sûr, absolument. C'était notamment sur ces propos.
Extrêmement cohérent.
La complaisance du milieu face aux agresseurs sexuels, je la cite, et la complaisance du milieu du cinéma avec l'ordre mortifère, écocide et raciste du monde. Bon. C'est un peu...
Après, ça, c'est...
Ça fait un peu théorie du complot, quand même. C'est le milieu du cinéma et anti-écologiste, raciste et...
Non, mais elle parle d'une industrie.
Elle parle d'un industrie milieu. Du milieu en général, oui, absolument.
Donc, c'est aussi symbolique, mais Oui, c'est peut-être très brutal et c'est des mots très forts, mais je ne sais pas si elle a tellement tort, moi.
Il y a un fond tout à fait de vrai, c'est ça.
Ouais, je pense.
Pour rebondir maintenant sur, par exemple, vos autres projets, est-ce que... Là, vous allez tourner pour des films, pour d'autres séries.
Là, moi, j'attends des réponses. Alors, du coup, je peux rien dire. J'aurais adoré avoir une réponse.
Ah non, mais on veut des scoops, Théo. On est déçus.
Donc, non, je peux pas vous dire grand-chose. Par contre, je sais qu'il y avait le
cinéma, série.
Il y a le film de PEF sur Jeff Penaclock qu'on a tourné il y a un bout de temps.
Ah oui.
On parlait d'accord. tout à l'heure des,
oui, des séries qu'on attendait.
Qui mettent du temps. Et celui-là, normalement, pour Noël. Donc,
cinéma ou télé, ça ?
C'est cinéma, ouais.
Cinéma. D'accord. Ouais. OK. Pour le reste, vous pouvez rien dire.
Non, voilà, exactement.
Très bien. Merci en tout cas, Tiffaine Davio, d'être venue nous voir. On vous retrouve sur TF1 dans Les Randonneuses. Ne ratez pas cette série. Hein. Je le dis et je le redis, c'est une série exceptionnelle hein, de finesse, de drôlerie et d'émotion. Ne la ratez pas. Et si c'est le cas, si vous regardez autre chose, il y a les replays. Merci en tout cas, Tiffaine, d'être venue nous voir.
Merci beaucoup.
Excellente journée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité.